Bonjour. Voilà un moment que je ne vous ai pas parlé de Trump. 15 jours. J'ai parlé de lui au moment où commençait ce procès à New York qui lui est intenté pour fraude électorale. Je ne suis pas revenu sur cette affaire. Si, j'ai fait quelques petits commentaires sur le blog, mais pas de commentaires, je dirais, d'ordre vraiment général. Alors on va faire un point. Et je vais un petit peu étendre le contexte. Je vais parler un petit peu après des États-Unis et puis de l'Europe. Voilà, parce que tout ça n'est pas sans effet sur une situation beaucoup plus générale. Alors, le procès, je vous rappelle en deux mots. Au moment de la préparation de l'élection présidentielle en 2016, au moment où Trump a été désigné candidat par son parti et où on est dans la, je dirais, dans la ligne droite finale, dans la période qui va de septembre, octobre, novembre jusqu'à aux élections présidentielles, il y a une série d'incidents qui ont lieu. En particulier, il y a le fait que Access Hollywood Tape. Bon, Access Hollywood, c'est une publication. Tape, ça veut dire l'enregistrement. Et se met à circuler un enregistrement où Monsieur Trump s'adresse. On a l'impression que. Enfin, non, on voit où c'est, parce qu'en fait, il y a eu un enregistrement visuel aussi. Et donc, ils sont en train de monter dans un car, si j'ai bon souvenir. Il y a une conversation comme ça, à bâton rompu, entre le journaliste d'Access Hollywood et Trump, qui probablement ne sait pas qu'on l'enregistre à ce moment-là. Et l'autre lui pose voilà, une question d'ordre général sur cette campagne. Et Trump fait une déclaration à ce gars sur un ton égrillard, même plus que ça, où il dit que c'est quand même formidable, voilà, d'être un homme riche et puissant, parce que ça vous permet, voilà, de faire ce qu'on veut aux femmes, et en particulier, voilà, si on veut les attraper par la trois petits points E, elles vont rien dire, voilà, parce que c'est comme ça. Bon, alors ça se met à circuler. Et alors là, au cours du procès, là, on vient de faire circuler quelque chose de l'époque auquel les gens n'avaient pas fait attention. C'est Trump qui dit, ah, je regrette devant une caméra, ah, je regrette vraiment d'avoir fait ça. C'est vraiment pas moi de dire ce genre de choses. Et voilà. Et tout le monde le présente. Ça a été présenté durant le procès la semaine dernière. Ça fait rire tout le monde. Voilà, tout le monde dit c'est la seule fois dans sa vie que Trump s'est passé tellement inaperçu parce que c'est la première fois dans sa vie que Trump s'excuse pour quelque chose. Voilà. Et le fait est qu'on l'enregistre peu de temps après, disant ouais, mais enfin bon, c'est tout le monde sait ça. Hein, ça fait des millions d'années que ça se passe comme ça. Pourquoi est-ce que les gens font toute une affaire? Il dit bon, c'est des trucs, c'est des propos des douches après le match, etc. Les hommes parlent entre eux comme ça, etc. C'est-à-dire, ils croient absolument pas à ses excuses. Et comme je dis, c'est passé absolument inaperçu à l'époque parce que ça paraissait tellement, je veux dire, à l'encontre des personnages. Mais bon, toujours est-il que ça circule à ce moment-là. On est en septembre, si j'ai bon souvenir. On est à 2 mois des élections. Et à ce moment-là, c'est la panique du côté de la, voilà, de la campagne, de l'équipe de campagne de Trump. Bon, les gens réagissent très mal. On se dit, bon, on a perdu au moins la moitié de l'électorat féminin d'un seul coup. Comment est-ce qu'on peut rattraper ça? Et à ce moment-là apparaît en arrière-plan le fait que deux femmes proposent à la presse. Bon, pas au New York Times, pas au Washington Post, pas au Wall Street Journal, proposent à la presse de caniveau, Gutter Press, leur propose de raconter les affaires avec un grand A, dans le sens de, voilà, dans le sens britannique, anglo-saxon, anglophone, de veut dire des relations d'ordre sexuel. Deux femmes ont des histoires à raconter. L'une s'appelle Stephanie Clifford est plus connue sous son nom d'actrice de films pornographiques qui s'appelle Stormy Daniels, et l'autre c'est Karen McDougal. Karen McDougal n'est pas une actrice porno, c'est une centerfold de Playboy. Voilà, c'est une des jeunes filles qui apparaissent sur une page dépliante au centre du magazine Playboy. L'histoire que Stormy Daniels a racontée, et moi je vous ai raconté tout ça à l'époque, en 2016, mais enfin bon, je fais un petit résumé. Stormy Daniels veut raconter qu'elle a été draguée par Trump, qui lui a promis qu'elle passerait dans son émission The Apprentice, une émission de télé-réalité où on interviewe les gens, savoir s'ils feraient des bons hommes d'affaires ou femmes d'affaires. Et Trump, elle a donné des points, voilà, c'est lui que je gère essentiellement et qui dit fired, voilà, bon, je vous prends pas, etc. Bon. On lui promet ça, Stormy Daniels en échange apparemment de passer dans l'émission. Elle a une fois une relation. L'autre, bon, c'est Karen McDougal. C'est une relation qui apparemment, selon elle, a duré 5-6 mois. Donc c'est beaucoup beaucoup plus. Elle raconte, quelques années plus tard, elle était interviewée par un reporter de CNN. CNN elle explique qu'elle avait été extrêmement vexée au point qu'elle n'avait plus envie de le revoir. Quand à la suite de leur première rencontre, il sort son portefeuille pour lui donner de l'argent. Elle a pris ça au sérieux. Quand on lui demande si elle pensait que Trump allait l'épouser, elle se met à pleurer. Mais il se fait qu'au moment où c'est pratiquement simultanément. Ça se passe durant le même séjour au même club de golf que Trump a la rencontre avec Karen McDougal, la première rencontre, et celle avec Stormy Daniels. Alors, quand on explique à Karen Maud McDougal qu'il avait eu cette relation avec Stormy Daniels au même moment pratiquement, elle dit, bon, ben c'est peut-être parce que j'étais parti, j'ai rien noté de ça de particulier. On voit qu'elle est désarçonnée, parce qu'après, elle le revoit. Quand le reporter lui dit combien de fois, parce qu'elle est en Californie, lui, il est bien entendu à New York, elle dit, ben je le voyais quand même deux ou trois fois par mois, et il venait sur la côte ouest. Donc, ces deux femmes ont saisi ces histoires à raconter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du camp Trump? On va tout faire pour étouffer ça. On se dit, avec l'affaire de l'enregistrement Access Hollywood, si ça tombe en plus, là c'est terminé. Il faut faire taire ces femmes. Et donc, on a parlé beaucoup de ces deux des manœuvres qui ont été faites justement pour les faire taire, parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui est potentiellement une infraction à la loi sur les voilà la loi électorale. Tout ça s'est fait évidemment en sous-main, en cachette, et surtout, ce qui permet voilà, qu'il y ait un procès au départ, qui soit un procès d'ordre, je dirais, comptable, c'est le fait qu'on a falsifié, des chèques, on a falsifié des opérations financières, on a fait passer les dépenses. Pour Karen McDougal, finalement, Trump n'a rien payé. C'est la publication. La publication National Enquirer qui a fait taire Madame McDougal en lui disant non, non, non seulement on va publier votre histoire, mais on va faire de vous une reporter importante. Voilà, vous allez avoir des chroniques sur le fitness et des choses de cet ordre-là. Stormy Daniels a été payé, pas directement par Trump, il a été payé par Michael Cohen qui était l'avocat de Trump, et la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que Michael Cohen a payé l'argent et Michael Cohen a été payé par Trump sous la forme de voilà rémunération pour des services d'ordre juridique. Et donc, voilà l'affaire. Alors, tout le monde est d'accord depuis le départ, je veux dire depuis au moins 6 mois, de dire parmi tous les procès qui sont faits à Trump, c'est probablement le moins sérieux. Mais il est arrivé par des pratiques dilatoires, c'est-à-dire en faisant appel de ceci, en posant plainte contre le juge et des machins de ce type-là, il est parvenu à ce que Les autres procès n'auront probablement pas lieu avant les élections au mois de novembre. Donc, toute l'attention, en tout cas, est sur ce procès-ci. Pendant ce temps-là, en arrière-plan, il y a une décision qui doit être prise par la Cour suprême des États-Unis, fort acquise à Trump, parce qu'il a fait nommer une majorité de gens à lui, à la Cour, sur la question de savoir s'il pourrait être exempté de tous les, voilà, de tous les crimes, de tous les délits, de toutes les, oui, de tous les délits qu'il aurait pu commettre pendant sa présidence. C'est absolument ridicule, bien entendu. La Cour suprême des États-Unis n'aurait jamais dû prendre, accepter de traiter ce genre de choses. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait essentiellement parce qu'elle est acquise à Trump. Et ils sont là, se gratter la tête en disant oui, si un président faisait ceci ou ça. Alors que le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce que Trump a déjà fait. Mais enfin bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement phare de la semaine dernière? C'est qu'on a fait venir une secrétaire de Trump, non seulement déjà pendant la campagne électorale, mais aussi pendant les premières années de sa présidence, Madame Hope Hicks. On l'a fait venir témoigner pour savoir ce qu'elle savait de ses affaires, voilà, s'il y a des chèques qui étaient passés d'un côté à l'autre. Ce qu'on avait dit au moment où Madame Stormy Daniels et Madame Karen McDougal, au moment où c'est connu qu'elles ont leurs revendications, comment est-ce que ça a été pris? Est-ce que ça a été pris simplement comme des tentatives d'extorsion, ce qui serait une façon effectivement dont on pourrait voir les choses. Ces dames disent que de leur côté, ben non, moi j'avais une information importante qui était pertinente par rapport à l'actualité. Il était normal que je puisse la faire, sinon en parler, du moins être rémunérée pour voilà à hauteur de l'argent que j'aurais reçu si l'affaire avait, si la, bon, si mon récit avait pu être a pu être publiée. Alors, cette Madame Opix, elle n'est pas venue son plein gré. Elle est venue à la suite d'une subpoena. Bon, elle est obligée par la loi. On lui a dit de venir, c'était important. Et elle est venue. Elle avait déjà témoigné de manière extrêmement timide et tiède devant la commission, voilà, la commission parlementaire sur les événements du 6 janvier. Voilà, la prise du Capitole par une foule de partisans de Trump. On l'avait vu un petit peu, voilà, interrogée. Elle n'était pas venue devant la commission. On avait vu des extraits de sa déposition. Donc, elle n'est pas très enthousiaste à trahir Trump. Et ce qui s'est passé, c'est avant-hier, donc vendredi, elle a parlé, on l'a interrogée longuement. Elle a parlé apparemment honnêtement, bien, même si elle a mélangé ce qu'on lui demandait de dire avec des propos extrêmement favorables à Monsieur Trump. Elle a toujours une très bonne opinion de lui. Et c'est au moment où ce n'est plus le ministère public qui l'interroge, mais au moment où ce sont les avocats de Trump qui vont l'interroger au titre de témoin. À ce moment-là, elle éclate en pleurs, au point que le juge décide d'ajourner les débats. Alors, j'ai mon opinion sur la raison pour laquelle Madame Hopkins a pleuré. Mais, vous le savez, maintenant, j'ai la chance, pour un montant total de 50 dollars par mois, d'avoir des conseillers, et je suis bien sûr allé les consulter sur cette affaire. J'ai demandé à ChatGPT, sous la version GPT-4, j'ai demandé à Claude 3 et aussi à Llama numéro 3 également, ce qu'ils pensaient des raisons pour lesquelles Madame Hope Hicks avait pleuré. Alors, voilà, Claude 3 et ChatGPT, bah écoutez, non, elle est sous pression. Elle a dit que quand on lui a demandé de commencer à s'exprimer, elle s'est excusée d'être en disant je suis extrêmement nerveuse. Et puis, bon, elle a parlé longuement. Elle a parlé contre son boss, et c'est comme ça qu'elle l'appelle, et tout en voilà, mélangeant ses propos qui étaient très difficiles à tenir, hein, vu qu'elle bon, avait une loyauté envers lui. Et puis bon, elle n'en pouvait plus. Et au moment où on continue à l'interroger, à ce moment-là, ben, on n'en peut plus, les nerfs craquent. Voilà. Liam A3, met l'accent sur ce qui est un peu mon opinion. Il donne deux raisons que les autres ne donnent pas. La première, c'est le sentiment de la trahison. Le moment où, effectivement, elle essaye d'être la plus loyale possible, mais elle est obligée, pour ne pas se parjurer, elle est obligée de dire la vérité devant le ministère public. Mais au moment où ce sont les avocats de Trump qui l'interrogent, à ce moment-là, elle a le sentiment qu'elle vient de le trahir véritablement en disant simplement la vérité. Et c'est à ce moment-là qu'elle est subjuguée par l'émotion et n'en peut plus et arrête de parler. Je crois qu'il y a effectivement ça. Si Trump perd son procès, s'il est vraiment inculpé et s'il est menacé de peine de prison en particulier, on dira au moment du verdict, il y a quand même des trucs qu'a dit OPEX qui ont été particulièrement importants, en particulier quand on lui demande si les paiements, les versements qui ont sont faits à Madame McDougall et Stormy Daniels, si c'est en relation ou non avec la campagne électorale. Et on lui pose la question, est-ce qu'on peut imaginer que c'est pour ménager les sentiments de Madame Melania Trump, essentiellement, d'autant plus qu'au moment où les deux affaires ont lieu, celle avec Stormy Daniels de manière ponctuelle et celle sur un plus long terme avec Madame Dogo, à ce moment-là, Madame Melania Trump vient de sortir de la maternité. Je pense à un truc. Alors tout le monde vous dira, c'est particulièrement dégueulasse, etc. Mais connaissant le bonhomme, il en manque. Hein. Écoutez, on dit comment il ose avec sa femme qui sort de la maternité depuis un jour ou deux. Mais oui, vous voyez, le type de beauf, le type de brute, il n'y a pas de. Il fait pas du sentiment. Il a un besoin, hein, soyons sérieux. Voilà ce qui se passe. L'autre aspect que met en évidence Yamatri 3, et puis oui, qui me paraît important aussi, c'est la peur. La peur simplement, la peur qu'on lui fasse un mauvais coup. Parce que, quand même, hein, quand on demande à Trump s'il sera un dictateur, s'il est renommé, il dit simplement oui, juste le premier jour, parce que j'aurais eu le temps quand même à ce moment-là de mettre pas mal de gens en prison et de faire disparaître, d'expulser du pays plusieurs millions de travailleurs illégaux. On se dit, bon, oui, ça, alors il sera un dictateur fasciste que pendant une journée. Mais le fait est que si une grande partie du parti républicain s'est rallié à ses vues à l'intérieur, c'est parce qu'il a utilisé des tactiques qu'on a vues en Allemagne à l'époque de Weimar, à l'époque où apparaissent ces milices de Hitler, à l'époque avec Mussolini en Italie, c'est par l'intimidation. C'est parce que si on bouge, voilà, s'il a l'impression qu'on le trahit, on peut faire un mauvais coup, non seulement aux parlementaires, aux sénateurs, mais aussi aux membres de la famille. Voilà. Et on l'a vu à l'époque, juste après les élections, quand il y a eu du harcèlement, quand il y a eu du harcèlement des gens, voilà, des commissions électorales qui avaient reconnu la victoire de Biden, etc. Mais c'est là précisément en fait que les choses sont peut-être en train de changer. Madame X, il est possible qu'elle dise, on va me faire un très mauvais coup parce que on dira, comme je viens de vous le dire, au moment du verdict, la déposition de Madame Hicks a joué un rôle essentiel. C'est véritablement elle qui a fait le lien entre les versements qui ont été faits à ces deux dames et la campagne électorale. Mais qu'est-ce qui est en train de changer? Pourquoi est-ce que la tête de Trump, et on parle beaucoup de la tête de Trump, on dit là il a une sale gueule, etc. Au début du procès, on dit ça, il s'endort, voilà, il s'assoupit. Mais maintenant, il s'assoupit peut-être encore, mais maintenant, il a surtout une très très sale gueule. Et moi, on n'en parle pas beaucoup. Ça c'est peut-être vraiment, je dirais, propre aux commentaires que je fais moi. À mon avis, c'est parce que il est particulièrement, c'est même pas énervé, il est désespéré pour la raison suivante. C'est qu'il s'attendait que dès le premier jour, il y ait des foules en colère, justement, de ces MAGA, Make America Great Again, les gens à t-shirt et à casquette rouge, il s'attendait que ses troupes soient dans la rue là. Quand ça n'a pas été le cas, quand tout le monde a pu voir, et voilà, les reporters au début regardaient, on disait, je suis arrivé, il n'y avait pas de manifestants, ou là, une personne arrive, et ça je me souviens, elle dit oui, j'ai compté, il y a 12 personnes voilà, qui protestent en disant pour M. Trump, witch hunt, chasse aux sorcières. Et puis dans les jours qui suivent, donc durant la première semaine, qu'est-ce qu'il fait Trump? Il commence à faire des déclarations. La honte anticonstitutionnelle du fait que les troupes, voilà, que la troupe empêche les manifestants de venir. Et au bout de quelques jours, les journalistes des deux bords disent non, on se rend ici, il n'y a pas de filtrage, il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de barricades, il n'y a pas de poste de police ou de militaire qu'il faut passer. Non, s'il n'y a personne qui manifeste, c'est parce qu'il n'y a personne qui a envie de venir manifester. Il n'y a personne. Le fait est qu'il n'y a personne. Et quand il y a des gens, il y a une demi-douzaine de personnes. C'est-à-dire que c'est le bonhomme qui était convaincu, voilà, qu'il est un Himmler et qu'il a des troupes, voilà, et qu'il peut à tout moment les convoquer et qu'elles vont créer la pagaille devant le palais de justice, devant la cour. Et ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu. Et j'ai l'impression que c'est ça qui l'atteint le plus. Il y a autre chose. C'est le fait que les troupes de Trump. Pas dans la rue maintenant, mais au Parlement, au Sénat, semble moins puissante qu'elle l'était autrefois. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce machin qui a retardé pendant longtemps un vote sur une aide militaire en particulier pour l'Ukraine. L'extrême droite, MAGA, est parvenue à retarder ça un certain temps. Et je reviendrai là-dessus. Finalement, un vote a eu lieu. Un vote a eu lieu au Parlement et puis au Sénat, et c'était il y a une dizaine de jours. Le vote a eu lieu du versement des fonds. Qui est-ce qui a orchestré ça? C'est le président de la Chambre. C'est normal, bon, que ce soit le président de la Chambre. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est M. Mike Johnson qui a remplacé M. Mitch McConnell, M. Jim Jordan a essayé de se faire élire, etc. M. Scalise, etc. Finalement, on a nommé ce M. Mike Johnson, qui est un type de Louisiane, qui, bon, il est très, voilà, il a, dans son état, il a essayé de faire imposer la prière au début des cours, dans toutes les écoles, etc. C'est un homme à Trump, c'est un homme à Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a orchestré et qui a su l'orchestrer le vote qui a fait passer les fonds. Et donc, il est considéré par le camp de Trump à l'intérieur du Parti républicain comme étant un traître. Maintenant, Madame Marjorie Taylor Greene, qui est une représentante non seulement de MAGA, mais véritablement, je dirais, de. Peut-être encore du noyau dur fasciste à l'intérieur de ce mouvement populiste trumpien, elle a donc comme projet dans les jours qui viennent à déboulonner ce monsieur Mike Johnson. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Madame Marjorie Taylor Greene, quand elle parle de l'Ukraine, c'est toujours les nazis en Ukraine. On croit entendre un communiqué de presse produit par l'agence TASS à Moscou. Les nazis ukrainiens, pourquoi est-ce qu'on doit aider les nazis ukrainiens, etc. Et au moment où l'argent est voté au Parlement par un grand à l'unanimité par les démocrates, mais aussi par une pas par une majorité des républicains, mais un nombre suffisant pour que le vote passe facilement. Mais ce n'est pas la majorité des représentants du parti républicain qui vote. C'est de l'ordre de qu'est-ce que c'est? De l'ordre de, je dirais, 40% à vue de nez. Il faudrait que je regarde les chiffres à nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où le vote passe? Et que donc les nazis, entre guillemets, les nazis ukrainiens reçoivent se voient allouer des fonds. Un certain nombre de démocrates ont là roulé sur leur pupitre et ils sortent à ce moment-là voilà, des grands drapeaux ukrainiens. Donc, ce qui s'est passé un petit peu là-bas, c'est un combat à l'intérieur du Parlement américain, non pas un combat à l'extérieur, voilà, ou à l'intérieur, au moment où les émeutiers parviennent à rentrer dans le Capitole, le 6 janvier 2021. Mais là, il y a une bataille, je dirais, ukrainienne, qui se déroule à l'intérieur. C'est, voilà, un combat de politique internationale qui a lieu à l'intérieur du Parlement américain. Et donc, on va voir si dans les jours qui viennent, Madame Marjorie Taylor Greene parvient à faire déboulonner Monsieur Johnson. Elle a potentiellement, voilà, en tout cas, cette majorité de 60% peut-être si les chiffres se maintiennent par rapport à ce qu'on a vu l'autre jour, de républicains. Elle n'aura évidemment aucun soutien de la part des démocrates. Mais la question de savoir, c'est est-ce que les démocrates vont s'abstenir ou éventuellement voter pour ce monsieur Mike Johnson, qui jusqu'à très récemment était considéré véritablement comme un partisan de monsieur Trump. Alors, ça attire quand même l'attention sur nous, c'est que cette extrême droite trumpienne, cette extrême droite trumpienne, elle est parvenue quand même à retarder le versement de fonds pour l'Ukraine en armement, suffisamment quand même pour mettre les troupes ukrainiennes en difficulté par manque de munitions sur le terrain. C'est-à-dire que Trump est quand même arrivé à pousser la guerre, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou plutôt entre la Russie et l'Ukraine, il est arrivé quand même à le pousser dans la bonne direction qui est la sienne, qui est en faveur de la Russie. Vous savez, bon, je suis une personne très très isolée dans le fait que je continue à dire que Monsieur Trump est un agent véritablement de la Russie. J'ai écrit deux livres dans ce sens-là. Bon, c'est pas, je suis pas tout à fait seul. Hein, dans les livres que vous regardez derrière moi, il y en a quand même deux ou trois aussi qui ont ce message-là, avec beaucoup d'informations très précises sur le moment où il serait devenu agent et que ce serait probablement en Tchécoslovaquie communiste plutôt qu'en Russie au départ, mais il y a beaucoup d'éléments, il y a des preuves, voilà, il publie dans les journaux des déclarations officielles de l'Union soviétique sous son propre nom, des choses de cet ordre-là. C'est pas, bon, c'est pas de la fantaisie, c'est pas du complotisme, etc. Et j'ai le sentiment que quand Trump arrive à ce que ses troupes au Parlement parviennent à retarder de manière significative un vote voilà, pour des fonds à financement pour l'armement ukrainien, il est en train de remplir la tâche pour laquelle il a été nommé. Voilà. On n'est pas arrivé à avoir des preuves formelles jusqu'ici, mais, et comme je l'ai dit tout au début, si jamais, dès son élection, si jamais il était vrai qu'une grande puissance serait arrivée à faire élire à la tête du pays qui est son rival sur le plan géopolitique, à faire nommer un homme à elle, ça aurait été une femme, ça aurait été la même chose, dans le pays qui est victime de cela, on ne reconnaîtra jamais que ça a été le cas. Ce serait un tel déshonneur, ce serait une telle honte qu'on préférera enterrer l'histoire. Et à mon sens, au moment au moment de l'impeachment, au moment de la commission Mueller, de voir, et j'en ai parlé à ce moment-là, quand vous regardez ce rapport de la commission Mueller et que vous regardez le nombre de pages qui ont été caviardées, vous pouvez tourner à certains endroits. Je vous montrerai, voilà, je mettrai une image. Il y a des endroits où on peut tourner les pages, hein, et tout est caviardé, tout est en noir, tout a été censuré. Ne me dites pas qu'il n'y a pas là des choses qu'on n'avait pas envie de dire. Si on avait eu envie de les faire savoir, les pages seraient avec le texte. On verrait le texte. Donc, est-ce que tout ça a un rapport en particulier, voilà, avec les explosions, l'explosion qui a eu lieu à Berlin la semaine dernière, avec certains sabotages qu'on voit dans des usines d'armement dans différents pays, avec les craintes qui se manifestent maintenant vis-à-vis de certaines voilà, communications sous-marines, des câbles, des tuyaux, des pipelines, des choses de cet ordre-là. Est-ce que ça, tout ça n'a aucun rapport? Eh bien, pas selon le Financial Times d'aujourd'hui, qui vous explique que les systèmes, voilà, que les systèmes de renseignement, les organismes de renseignement des pays de l'OTAN sont en train de se concerter à propos de ce qui paraît bien une campagne organisée de la part de la Russie de saboter un certain nombre de choses. Et plus inquiétant, selon le Financial Times, le fait que certaines explosions qui sont programmées ne semble pas payer énormément d'attention aux victimes civiles qui seraient produites par ces diverses explosions. Voilà. Alors, je vous avais dit dès le départ, on va parler des États-Unis, mais petit à petit, on va quand même élargir on va partir du procès de Trump et on va élargir ça au cadre américain, la politique américaine. Et puis, on risque de se retrouver dans la géopolitique au plus haut niveau. Voilà. Comme toujours. Intervenez dans le débat qui aura lieu à la suite de ce que je viens de dire sur mon blog et je vous tiens au courant. Je ne vous tiens pas au courant voilà, des activités de Trump au jour le jour. Je ne vous fais pas de rapport sur ce qui s'est passé au tribunal de Rahner non plus. Je préfère dominer, je dirais, un petit peu, voilà, d'un peu plus haut la situation pour vous donner les points les plus intéressants, peut-être à échéance, voilà, de quelques jours, de quelques semaines, éventuellement même. Voilà. Allez, à bientôt.